Okay, dopo ni a France parlante publico, ni transiro la France. Bonjour mesdames et messieurs, je vous remercie d'être présents aujourd'hui à notre conférence dont le thème est l'espéranto comme langue familiale. L'espéranto, nous en avons parlé depuis quelques jours en ce congrès à Martigues, donc je pense que ce n'est plus la peine de le présenter. Par contre, il me semble très important de définir ce que l'on entend par langue familiale. Alors, on va replacer ça un peu dans le contexte général. Il faut savoir que sur la planète, les gens qui sont monolingues sont minoritaires, à tel point qu'une linguiste comme Tove Guttnab pense que le monolinguisme est une maladie. Alors, comment soigner cette maladie? Donc, je vous propose aujourd'hui un remède qui est le bilinguisme précoce et donc l'usage de l'espéranto comme langue familiale pour mettre en place un bilinguisme précoce. Alors pourquoi utiliser l'espéranto? On peut s'en servir pour des voyages, en famille, pour aller à des congrès, ou pour utiliser le passeport à cerveau, c'est-à-dire être mieux accepté en tant que famille espérantophone que si vous arrivez quelque part dans un milieu qui parle l'espéranto, qu'une partie de la famille ne le parle pas. Ce qu'on appelle crocodilé dans la culture espérantophone. Donc, pour arriver à profiter de l'usage de l'espéranto en famille, il est nécessaire que tous les membres de la famille puissent le parler. Ce qui veut dire bien sûr que même les locuteurs les plus jeunes soient des vrais locuteurs et non pas des passagers clandestins qui utiliseraient leur langue nationale dans un contexte international. Également, si on prend le point de vue inverse, lorsque vous accueillez un étranger chez vous, c'est bien sûr beaucoup moins cher d'accueillir quelqu'un chez vous dans votre cas familial que de faire voyager toute la famille. Vous pouvez utiliser l'espéranto sans changer vos habitudes si l'espéranto fait déjà partie de votre foyer. Je m'explique. Si vous ne parlez que le français chez vous et que le jour où un espérantophone arrive, d'un coup, on demande à tout le monde, y compris aux enfants, de parler espéranto, alors ça va leur sembler complètement artificiel. Si par contre, vous utilisez l'espéranto comme deuxième langue familiale, la venue d'un étranger ne perturbe en rien le fonctionnement familial. Et donc, comme ça, on va pouvoir avoir un usage de mise en contact de la famille avec des sources culturelles étrangères. Mais on peut aller bien sûr beaucoup plus loin, et c'est même quasiment requis si vous voulez que les enfants en profitent au mieux. Et donc, on va parler de bilinguisme. Donc, le bilinguisme d'habitude dans le mouvement espérantophone concerne des couples binationaux. Donc, ce n'est pas un point que je vais développer ici, puisque les enfants issus de couples binationaux ont déjà généralement deux langues nationales sur laquelle on peut ajouter une troisième langue, donc la langue pont, l'espéranto. Je vais développer un peu plus un autre cas qui est le cas des enfants monolingues qui donc pourraient être élevés dans un cadre bilingue tout en étant mononational. C'est-à-dire un bilinguisme précoce, français et espéranto, qui est la condition sine qua non si vous voulez utiliser l'espéranto tel que je l'avais décrit avant, comme moyen d'accès aux cultures étrangères, y compris pour les locuteurs les plus jeunes. Donc, quelques mots sur le fondement du bilinguisme. Le cerveau humain est tout à fait capable de grandir en deux langues. Ça a été prouvé depuis longtemps par des expérimentations à l'aide d'un outil qu'on appelle la tétine électronique, qui est une tétine qui mesure le pouvoir de succion de l'enfant lorsqu'il est soumis à une langue étrangère. Donc on se rend compte que lorsqu'il est soumis à une langue maternelle, lorsque c'est la langue de sa mère qu'on lui parle, il va sucer sa tétine d'une certaine façon. Si c'est un enfant qui est bilingue de naissance et qu'on lui parle la deuxième langue, il va sucer sa tétine exactement de la même manière. Si par contre c'est un enfant monolingue et qu'on commence à lui parler une langue étrangère, alors sa manière de sucer sa tétine va être différente, ce qui prouve que le cerveau, dès le plus jeune âge, est capable de faire la différence entre la langue maternelle ou les langues maternelles et les étrangers. Alors il ne fait pas la différence entre tous les étrangers, il les met tous dans la même catégorie. Il a les langues maternelles et les étrangers. Donc tout jeune, l'enfant est capable de discriminer les sons et les différentes langues. Ça veut dire que, en plus depuis, on sait que même dans le ventre de sa mère, il est capable de discriminer la langue de son père ou la langue de sa mère. Ça veut dire que dès le début, l'enfant est tout à fait capable de construire sa représentation du monde au moyen de deux langues et de les mettre au même titre, comme si c'était des langues qui ont la même position, donc sa langue maternelle. C'est ainsi qu'on devient bilingue. Alors je vous propose d'étudier maintenant le comment. Comment mettre en place un bilinguisme précoce? Si votre enfant a déjà quelques années, c'est trop tard pour un bilinguisme simultané. On va donc pouvoir mettre en place un bilinguisme consécutif. Mais plus on s'approche de l'âge fatidique des 7 ans, moins cette possibilité va rester. C'est-à-dire qu'à partir de 7 ans, les facultés cognitives de l'enfant régressent de manière à ce qu'on ne puisse plus rentrer une deuxième langue étrangère au même titre comme on l'avait donné avant. C'est-à-dire lorsque l'enfant quitte l'âge du langage, il ne grandit plus dans les langues, il apprend une langue étrangère. Donc, de façon pratique, si vous voulez construire un bilinguisme précoce avec un enfant qui parle déjà français et qui a, disons, 4-5 ans, une technique toute simple consiste à lui parler en espéranto et à répéter immédiatement en français la même phrase. Et lorsque vous aurez constaté qu'il comprend l'espéranto, vous pourrez ne plus que parler espéranto. Donc on va en douceur passer d'un régime qui était monolingue à un régime bilingue, de manière à ce que l'enfant ne se retrouve pas du jour au lendemain face à une langue qu'il ne comprend pas. Pour un nourrisson, c'est totalement différent. On va construire un bilinguisme simultané. Mais le bilinguisme simultané se développe d'autant mieux que l'enfant associe chaque langue à chaque personne. C'est ce qu'on appelle le modèle de Ronchin, ou le modèle Upul, c'est-à-dire une personne, une langue. Si le père parle sa langue et la mère parle sa langue, alors ça fonctionne très bien. S'ils interchangent entre eux dans une troisième langue, ça marchera également. Si le père, par exemple, et c'est mon cas, parle espéranto à ses enfants et français à sa mère, ça marche également. Mais s'il commence à parler français ou espéranto à la mère, français ou espéranto aux enfants et ainsi de suite, si tout le monde mélange toutes les langues, l'enfant ne s'y retrouve plus. Donc si on maintient ces prérequis, c'est-à-dire une personne, une langue, dans le cas du bilinguisme simultané, ou une langue, et je répète, jusqu'à ce que la personne, l'enfant, comprenne, dans le cas du bilinguisme consécutif, on arrivera à des résultats. Alors, nous avons besoin des moyens. Quels moyens utiliser pour faire ça? Si vous voulez que l'enfant utilise la langue, il doit grandir avec. Donc il va falloir nourrir son bilinguisme. On nourrit son bilinguisme essentiellement par des films, par des dessins animés, des supports audiovisuels qui vont lui donner le modèle de la langue, de manière à ce que vous ne soyez pas tout le temps obligé, vous, de produire des contenus. Donc, il faut absolument qu'on trouve des films, comme c'est le cas récemment avec ce qui a été doublé au Népal, c'est-à-dire Maisie Mousse, Mimi la souris, dont il existe deux DVD de 50 minutes qui permettent à l'enfant d'avoir un langage adapté à son âge, c'est-à-dire « Salut, on pingvenoi !»« Ah, yes !»« Salut, on Maisie !» Salut Don Carlo, des choses très très simples qui sont adaptées à son âge. En termes de livres enfants, on n'en aurait pas vraiment besoin parce qu'il suffit de faire une traduction à vue des livres français. Par contre, on a vraiment besoin de livres pour l'enfant bilingue lorsqu'il va arriver à l'âge de la lecture. D'autant plus qu'il est scolarisé dans un média entièrement français. Donc toute l'école parle français, tous les copains parlent français. Ça veut dire qu'il faut absolument s'occuper de la deuxième langue à la maison et il va falloir le pousser à lire en espéranto si vous voulez que son vocabulaire continue à s'enrichir. Comme on dit d'habitude, la plus forte lingua s'occupe d'elle-même. La langue la plus forte s'occupe d'elle-même. Vous devez vous occuper de la langue la plus faible avant qu'elle soit complètement balayée par la vie dans la langue la plus forte. Au niveau de la vie adolescente, donc lorsque votre bilingue aura grandi, les choses seront totalement différentes. Le manque de reconnaissance aujourd'hui de l'espéranto fait qu'il n'utilisera l'espéranto que s'il est actif dans des associations et s'il s'en sert dans la communauté. Mais à ce moment-là, il aura déjà bénéficié de l'ensemble des avantages du bilinguisme qui sont très connus au niveau cognitif. Quel résultat peut-il attendre? Quel résultat vous devez attendre? Si vous visez une compréhension passive, c'est assez facile. Au bout d'un an de ce traitement, donc bilinguisme simultané, ça veut dire que dès que le bébé va commencer à réagir à la façon dont on parle, ça va marcher dans les deux langues. Pour l'enfant qui a eu un bilinguisme consécutif, au bout d'un an, on va se rendre compte qu'on n'avait plus besoin de répéter. Vous pouvez directement parler en espéranto sur les langues, sur les phrases, les monèmes et les phonèmes les plus courants, il va comprendre. Par contre, si vous visez des compétences actives, là, ça va être beaucoup plus difficile parce que la deuxième langue est peu utilisée, bien évidemment, puisqu'il n'y a qu'un seul locuteur qui la représente, alors qu'autour, on a trouvé tout le monde qui parle français. Il faut compter à peu près 3 ans pour que l'enfant soit capable d'émettre quelques phrases, sujet, verbe, complément et avec accusatif, hein, sans qu'il se trompe. L'accusatif, ça rentre de manière quasi innée. Si c'est un bilinguisme simultané, ça ne va pas rentrer de manière innée si on est dans le bilinguisme consécutif. Et si vous voulez qu'il soit capable de tenir une conversation, il faudra attendre pas loin de 5 ans. Ce qui veut dire, et nous conclurons par cette phrase, on peut grandir en deux langues, mais ça ne raccourcit pas la croissance pour autant.